Bienvenue dans Followers. Ils sont youtubeurs, instagrammeurs ou même tiktokers. Nous les connaissons à travers nos écrans, mais à quoi ressemble leur vraie vie? Je suis Pauline Borgia et dans ce podcast, je rencontre les créateurs de contenu les plus influents. Chaque jour, des millions de personnes, de followers, suivent les joies, les drames et le quotidien de leurs créateurs de contenu préférés. Ils sont parfois devenus nos amis ou même nos confidents. Mais qu'est-ce qui les motive et surtout qu'est-ce qu'ils défendent? Comment gagnent-ils leur vie? Comment ont-ils monté un empire avec un simple téléphone? Vous allez enfin passer de l'autre côté de l'écran. Mon invité du jour, comment vous dire? En fait, c'est YouTube à la sauce des familles. Les réseaux ne se sont pas construits en un jour, mais parmi ceux qui étaient dans le game en 2011, elle était là et bien là. Au départ, sur sa chaîne, elle fait de l'humour, des vidéos qu'on trouve hilarantes et attachantes. Et puis, son contenu évolue. Elle nous emmène dans des destinations de rêve, les Maldives, Rio de Janeiro, la Nouvelle-Zélande, mais elle nous parle aussi d'écologie. Et oui, elle n'a pas peur de s'engager. Aujourd'hui, sur ces réseaux, on trouve tout. Placement de produits loufoques, docu hyper détaillé, collaboration engagée bien sûr, un contenu original qui séduit 700 000 followers. Je sais que vous allez l'adorer. Bienvenue à Léa Camilleri. Salut Léa.
Salut Pauline.
Bienvenue dans Followers.
Merci, je suis trop contente d'être là.
Alors, tu t'appelles Léa Camilleri.
Ouais.
Tu as 35 ans, tu vis à Paris, tu es créatrice de contenu. Alors après, on va rentrer dans le détail parce qu'en fait, tu n'es pas que créatrice de contenu, tu fais beaucoup de choses. Tu réunis aujourd'hui 473 000 abonnés sur YouTube, 300 000 sur Insta. On peut dire que ça marche pour toi sur les réseaux sociaux. À la base, tu es une pionnière de la création de contenu sur les réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube.
J'adore le mot pionnière parce que je m'imagine toujours avec une petite pioche, avec un petit look de cow-boy, genre au train de la mine.
Non mais tu fais partie de ceux qui ont ouvert la voie en France et qui ont cartonné sur YouTube.
Bah, en fait, quand j'ai commencé, c'était en 2012. Et en 2012, c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup sur YouTube, par exemple. On était vraiment une petite... ça pouvait se compter, je pense, sur les doigts de la main. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc oui. Il y avait énormément de place en fait pour créer des choses. Il n'y avait pas vraiment de pression comme aujourd'hui où on sait qu'on peut en vivre et que c'est un métier que tu peux gagner de l'argent. À l'époque, c'était un peu différent, quoi.
Oui, c'est la grosse différence. C'est-à-dire que maintenant, il y en a beaucoup qui le font en se disant « Ok, je vais me professionnaliser là-dedans parce que ça va devenir mon métier. » Et vous, c'était juste pour s'amuser, quoi.
Oui, en plus, maintenant, tu as des écoles pour devenir influenceur, etc. Maintenant, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit « Mais c'est quoi un influenceur ?» Parce que nous, on ne nous appelait même pas comme ça en 2012. Et c'est ça qui est chouette et je suis contente d'avoir vécu ce parcours-là, c'est qu'en 2012, tout était vraiment possible. Il n'y avait pas encore de règles à proprement parler sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'était des tests encore. C'était on teste de l'humour, on teste des formats, on teste... et peu importe, si on se plante, au final, on fait, on crée, tout le temps. Et c'était une pression parce qu'il fallait créer du contenu et fictionner des choses. Et aujourd'hui, peut-être les choses sont un peu moins fictionnées pour certains influenceurs. Mais voilà, les choses, il faut qu'elles changent aussi, qu'elles évoluent. C'est OK, tu vois.
Mais de quoi vous viviez à l'époque, alors?
Franchement, j'avais pas d'argent. Quand j'ai commencé en 2012, j'habitais chez ma mère. Je lui demandais de m'aider pour les tournages, de tenir la caméra ou d'appuyer. Enfin, voilà, moi, je vivais en Espagne. J'ai vécu en Espagne pendant 2 ans. J'étais graphiste là-bas. Et du coup, je suis revenue chez ma mère. Moi, j'avais vraiment un sentiment d'échec. Je me disais, je reviens chez mes parents. J'ai 24 ans. Enfin, voilà, pas cool, quoi. 25 ans. Et au final, voilà, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Mais t'as pas d'argent quand tu commences. J'avais un peu d'argent de côté, où j'étais graphiste en freelance, tu vois. Donc j'avais pas vraiment. C'était du scotch et.
Mais donc t'as connu le milieu du travail, disons normal, parce que c'est pas une vie normale quand même.
Non, c'est pas une vie normale du tout. Et je pense que quand j'ai commencé j'ai toujours fait mes études dans le graphisme. Mon alternance a commencé, je crois, j'avais 17 ans. Faut savoir que j'ai pas eu le brevet.
Ah bon?
Non, j'ai pas eu le brevet. Maintenant, je le dis, ça va mieux. Je me suis soignée. Mais avant, j'avais super honte. Et suite à ça, moi, je savais exactement où je voulais aller. Je voulais faire une école de graphisme, la même que mon frère. Donc voilà, moi, très vite, je suis rentrée dans le monde du travail et de l'alternance. J'étais super jeune, quoi. Je suis arrivée en agence de com. J'avais presque 17 ans. Donc le monde du travail, je l'ai commencé assez jeune. Et c'est pour ça que ça me faisait pas peur de me renouveler à 25 ans, en fait.
Alors, on va repartir au tout début.
Oui.
Toi, tu n'es pas parisienne du tout, tu es une vraie, de vraie Toulousaine.
Oui, complètement Toulousaine.
C'était quoi ton univers familial ?
Alors, j'ai grandi dans un peu un malabar bigou. Mon père est musicien, donc toujours été musicien. Il avait un studio d'enregistrement quand j'étais petite, donc j'ai toujours couru dans les couloirs d'un studio. Donc, j'ai la chance d'avoir vu un métier un petit peu artistique. Et ma mère est éducatrice spécialisée, donc rien à voir, plutôt dans le social et quelqu'un avec beaucoup d'empathie. Et voilà, donc deux univers complètement différents. Et mes parents sont divorcés depuis que j'ai 2 ans, donc j'ai grandi dans 2 familles complètement séparées. Donc ça fait 2 Noëls, ça fait 2 ambiances vraiment différentes. Et je pense que ça m'a permis de se trouver. Quand t'es adulte, t'as le choix du coup entre plein de choses différentes. Et c'est ça qui était chouette. Donc, un environnement plutôt artistique quand même, globalement. Ma mère adore le théâtre aussi, par exemple. Voilà, elle m'a initiée à plein de trucs, la musique, le théâtre, le cinéma. Donc j'ai eu vraiment le choix.
Comment tu t'es lancée donc, sur YouTube ? T'étais graphiste, tu rentres d'Espagne donc, c'est
ouais,
ça ?
Exactement.
Et là tu te dis, tiens, je vais me filmer et faire des blagues.
Bah tu rigoles, mais presque en fait. Non, pas tant en fait, c'est que comme je faisais des vidéos depuis que j'avais 14 ans, je faisais des parodies de la Starac à l'époque avec mes copines, qu'on gravait sur CD-ROM évidemment. Et même pour les anniversaires et tout, en fait, on faisait toujours des petites vidéos, genre je ne sais pas pourquoi. On a eu la bonne idée de nous offrir, pas qu'à moi, hein, mais genre des appareils photo. À l'époque, c'était les premiers appareils numériques, en fait. Et tu pouvais filmer un peu avec. Ou alors, au début, on avait des webcams. Donc, en fait, tout ce qui nous permettait de créer des choses, j'allais dire du contenu, mais c'est pas ça, des choses, des petites sketches et tout ça, on utilisait tout ce qu'on avait à disposition pour faire des trucs. Ou alors, on refaisait des sketchs mot pour mot. Et maintenant, je me dis, TikTok, c'est ça, tu
mais
vois.
Oui.
Et à l'époque, on faisait ça, mais pour nous, enfin, en fait, on n'avait aucun but, on n'allait pas le montrer à quelqu'un. Et donc, j'ai toujours grandi en faisant des sketchs avec mes copines. Ensuite, j'ai fait des courts-métrages avec mes 2 frères. Et donc, arrive un jour où, en fait, en Espagne, j'avais un métier complètement classique. Et même là-bas, je continuais à faire des vidéos avec mes copines espagnoles. Donc, j'ai quand même réussi à trouver les seules filles qui voulaient faire la même chose que mes copines à Toulouse. Et quand je suis rentrée en France, il se trouve que YouTube avait vachement changé. Et c'était plus qu'un truc de musique. Tu sais, c'était beaucoup utilisé pour la musique avant ou des vidéos un peu virales, mais pas vraiment pour les sketchs. En tout cas, pas des sketchs qui avaient été conçus, par exemple, des Français. C'était souvent des sketchs du Saturday Night Live qui étaient relayés ou des trucs comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait des têtes émergentes comme Cyprien, Natou ou même Norman, je me disais, en fait, c'est des gens où j'ai l'impression qu'ils me ressemblent d'une certaine façon, puisque ça veut dire qu'on aime créer des choses, on aime faire des blagues et on aime se filmer. Et ben go ! Est-ce que j'essaierais pas de créer un contenu fait pour YouTube ? Donc voilà, j'ai pas mis mon contenu que j'avais déjà, j'ai créé mon premier sketch. Ma première vidéo YouTube a été créée uniquement pour YouTube.
Et donc cette vidéo, c'était quoi ?
C'était les jeux de société. Tu sais, à l'époque, on devait choisir des thèmes qui étaient un peu larges, genre les pères de famille, ouais. Les jeux de société. Ben voilà, moi j'avais commencé avec ça parce que c'est un thème avec lequel je me sentais à l'aise. Pff, ça aurait pu être n'importe quoi en fait.
Oui, mais ça parle à tout le monde et ça marche. Et en fait, faut dire comment ça se passait. C'est-à-dire que vous donniez des exemples de scènes de vie.
Exactement.
Hyper quotidiennes.
Ouais.
Et ça cartonnait quoi.
Il fallait que tu puisses t'identifier d'une façon ou d'une autre, ou alors que ça te fasse rire parce que tu reconnais quelqu'un dans les personnages qui vont être joués dans la vidéo.
Moi, je trouve qu'à l'époque, il y avait vraiment 2 styles. Il y avait vous, cette bande qui faisait des choses très dans l'acting avec toujours une thématique et tout ça. Et puis, il y avait les filles qui faisaient du make-up. Il y avait 2 types de contenu qu'on pouvait regarder. Ouais. Et ces filles qui faisaient du make-up, elles parlaient aussi de leur vie perso, de leurs problèmes, etc. Et on s'attachait vachement à elles, à leur personnalité. Vous, on était attachés à vous, mais pour d'autres raisons, parce que limite qui, moi, me correspondait plus à l'époque, où je me disais, c'est trop cool parce que c'est des artistes, c'est vraiment des artistes. Après, j'ai compris que ces meufs-là, c'est des super grandes artistes, et en plus de ça, elles parlent d'elles, donc elles donnent énormément, quoi. Et surtout, le taux d'engagement, il est ouf.
À l'époque, en tout cas, ceux qui voulaient faire du divertissement et de l'humour, on ne capitalisait pas du tout sur notre vie privée, ni notre personnalité en tant qu'humain. On capitalisait sur l'écriture, l'acting et la petite étincelle de « Ah, c'est bien trouvé ». Il fallait faire une vidéo où les gens se disent « Ah, c'est malin ». Et les filles qui faisaient du maquillage et qui s'ouvraient et qui racontaient parfois des expériences de vie et des choses assez intenses parfois, je me disais « Mais je serais incapable de faire ça ». En fait, c'est pas que j'aimais ou j'aimais pas, c'était pas ça. Je me disais « Je n'arriverais pas à faire ce qu'elles font ». Donc j'ai jamais eu de regard critique par rapport aux gens qui faisaient pas la même chose que moi, parce que je me disais « Mais voilà, ce qu'elle fait, je serais incapable de le faire ». Donc au final, c'est peut-être un contenu que je regardais moins, mais c'est pas un contenu que j'aimais pas en tout cas.
Est-ce qu'il y avait des haters quand t'as commencé YouTube?
Alors, il y en avait. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Quoique, peut-être ils ont grandi. En vrai, les haters de l'époque...
Ah, c'est les mêmes.
Peut-être ils ont grandi et ils ont 45 ans.
Ils sont encore plus méchants.
Ouais. Non, alors, moi, c'était... J'ai jamais eu un rapport aux haters hyper problématique parce qu'au final, les réflexions que j'avais sur mes vidéos, c'était genre, les femmes, c'est pas drôle dans la cuisine. Donc, à partir du moment où c'est tellement nul et c'est tellement...
Oui.
C'est drôle en même temps que je pouvais pas prendre ça personnellement. Bien sûr qu'il y a un moment où tu dis, ah, je suis vraiment pas drôle, il faut que j'arrête de faire des vidéos. Mais passer ce moment de quelques secondes, bah, après, c'est tellement gros comme type de message que tu peux pas t'arrêter là-dessus, c'est pas possible. Donc non, après, j'ai eu des fois des critiques constructives de gens qui aimaient pas forcément l'humour en soi, qui peut parfois être un peu... potage pour certains, j'en sais rien en fait. Mais même sur mon physique, il y en a pas eu tant que ça. Après, les filles, on sait qu'on se fait beaucoup juger sur notre physique, surtout quand on est sur YouTube.
Mais toi, tu t'en fichais un peu, c'est pas un truc...
Bah, j'ai l'impression d'avoir été vachement préservée de ça, surtout.
Ouais.
Hein.
Ouais.
J'ai beaucoup de chance et quand, des fois, quand j'entends des histoires de haters, de cyberharcèlement et tout ça, ça me choque parce que pour moi, c'est lunaire. Je comprends même pas comment quelqu'un peut faire ça. Mais j'ai l'impression d'avoir été très épargnée par des vagues. À l'époque, si t'avais des vagues, c'était plutôt genre, ça venait de jeuxvideo.com et c'est des mecs qui avaient 13 ans et qui disaient, ah, venez, on va tous mettre des pouces rouge sur la vidéo de un tel, mais c'était une opération collective, voilà, c'était des petites missions, mais tu peux rien prendre personnellement, c'est pas possible. À partir du moment où t'as du second degré sur toi-même aussi, alors après attention, hein, toute proportion gardée, je dis ça quand c'est des commentaires qui sont assez légers.
Oui, quand c'est des vagues, par exemple, je sais pas si t'as vu la vidéo de Léna Situation qui explique qu'ils vont chez sa mère, sa grand-mère, etc., qui jettent des trucs, ou même des vagues de harcèlement. Non mais, enfin, moi je suis contre, et je trouve ça terrible, mais je suis contente aussi qu'on puisse arriver à avoir cette discussion où on peut se dire on s'en fiche de vous, mais là vraiment, enfin, et vous nous faites rire limite.
Après, j'avais pas non plus la même audience par exemple qu'une Léna, donc toute proportion gardée aussi, peut-être que comme mon audience est plus petite, ils s'évertuaient pas à se lâcher sur moi, parce qu'au final, il n'y avait pas vraiment de retour. De toute façon, quand il n'y a pas de retour, généralement les gens s'épuisent assez vite, mais bon, il y a.
Bah, ça dépend, je crois. Hein.
Oui, c'est
tu
vrai.
Tu vois, après, une meuf comme
Léna
Situation,
exposée,
voilà. Je pense qu'ils s'épuisent jamais, les gars. Quoi.
Mais parce qu'elle est extrêmement, extrêmement... Enfin, le mot extrêmement n'est même pas approprié. Elle est très exposée. Et puis, elle est super talentueuse. Donc, les gens lui cherchent des trucs un peu lunaires partout. Et malheureusement, elle ne pourra pas faire sans.
Ouais.
Mais c'est ce qui fait aussi qu'elle a une fanbase aussi énorme et aussi bienveillante. L'un ne va pas vraiment sans l'autre.
Ouais,
c'est rare, en tout cas.
Bon, on va revenir à toi. du coup, tu es sur YouTube. Tu commences à faire des vidéos. Ça commence à marcher même très bien à un moment. Je vois que tu as des vidéos à 6 millions. Enfin, c'est monstrueux. Ça doit être un peu... Tu dois te dire, ah, il y a 6 millions de personnes qui ont vu cette vidéo.
Je ne sais pas si on réalise sur le moment. En tout cas... Je savais juste... En fait, alors, mon parcours YouTube, il est chaotique parce que j'ai fait des vidéos, donc je crée des vidéos, je les écrivais, je jouais dedans, etc. Et ensuite, j'étais persuadée que mon métier, c'était d'être auteur. J'étais persuadée que ma vie, mon destin, c'était d'écrire pour les autres. Donc du coup, j'ai commencé à intégrer un collectif qui s'appelle Golden Moustache, qui était piloté par M6 à l'époque, qui était un peu le concurrent de Studio Bagel à l'époque. Et j'étais persuadée, mais j'en suis toujours persuadée, je crois très fort en la puissance du collectif. Je crois très très fort le fait de s'entraider, de confronter son travail aux autres. J'avais très envie de ça, parce que moi j'avais toujours été seule. Du coup, voilà, je me suis retrouvée à écrire avec un pool d'auteurs. Voilà, j'étais dans un autre monde et j'étais persuadée que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai adoré, c'était trop bien et tout. Mais sauf que bah, du coup, ma chaîne n'était plus alimentée. Et je me suis dit, mais ça me manque en fait. J'écris pour les autres, je fais plein de
trucs.
Mais
là, à ce moment-là, ta chaîne, ça te rémunère ou pas du tout?
Je pense pas que ça me rémunérait parce que je faisais pas encore des millions de vues. Je pense que c'est arrivé quand j'ai repris ma chaîne. J'avais fait une vidéo qui s'appelle la vidéo des 2 ans sans vidéo. Et en gros, c'est celle-là vraiment qui a commencé à marcher fort. Et
c'est marrant.
Mais parce que aussi en 2 ans, YouTube s'était vachement démocratisé. Mm-hmm. Il y avait plus de monde sur la plateforme. C'était plus facile. Pas plus facile, mais en gros, j'avais fait des trucs à côté qui me permettaient peut-être d'avoir des meilleures armes pour créer du contenu plus facilement.
Oui, et tu connaissais quand même cette plateforme et tu savais comment la gérer et tout ça.
Ouais.
Et après aussi, ce qui a vachement bien marché entre vous tous, c'est que vous avez fait des vidéos ensemble, vous partagez des choses, ça vous pousse les uns les autres en fait.
C'est la puissance de. Alors, pas forcément du collectif, parce que t'es pas toujours en collectif, mais évidemment. Et j'ai eu la chance d'être avec des gens qui étaient beaucoup plus connus que moi, je pense notamment à Natou, et qui forcément te proposent de faire des trucs. Donc, du coup, tu te retrouves dans dans des contenus qui sont pas les tiens, et si les gens aiment ta personnalité, se retrouvent.
Et là, on est sorti un peu de l'écriture, parce que moi, j'ai vu des vidéos que, d'ailleurs, que j'ai adoré, hein, des vidéos où vous vous faites goûter des trucs avec Natou. Je me rappelle de ce truc-là parce que j'avais beaucoup ri, parce qu'en fait, le fait que tu lui fasses goûter un truc de poisson, machin, là, les yeux bandés et tout, tu dis ok, c'est basique, sauf que vous êtes rigolote, on voit votre complicité, et là, finalement, on rentre dans un truc plus personnel parce qu'on vous découvre vous comme vous êtes et tout. Et là, peut-être que les gens se sont plus attachés à toi parce qu'ils t'ont découverte.
Bah, je pense qu'on se moquait aussi. Il y avait déjà des trends hein, à l'époque, genre What's in my mouth, donc se faire goûter des trucs, c'était déjà des challenges qui existaient sur YouTube. En fait, si tu prends ce concept-là, on prend beaucoup de recul de second degré, etc. Ça peut rendre aussi un contenu qui est un peu inédit. Donc en fait, je pense que l'idée, c'était sans trop réfléchir, de dire ok, cette trend est marrante, mais des fois, c'est pas si marrant que ça. Tu regardes juste les gens se faire goûter des trucs. Si t'es un peu foufou et que ton duo il est un peu foufou, bah ça peut rendre un truc vraiment drôle.
Après YouTube, ça a évolué pour toi un petit peu partout sur les autres réseaux. Tu t'es un peu installé partout, ben, comme à peu près tous
le
les
monde.
Gros créateurs de contenu. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis je vais continuer à faire ça, ou tu te dis tiens, je vais me diversifier et je vais faire autre chose en plus, comme par exemple de l'acting, être actrice au cinéma ou dans des séries ou au théâtre ou je ne sais quoi.
Je pense que j'avais fait ce petit travail d'introspection professionnelle un peu avant. Du coup, je suis passée par ce truc de savoir est-ce que je veux être auteur, est-ce que je veux être comédienne. J'ai quand même passé quelques castings pour le cinéma que je n'ai absolument pas eu. Du coup, ben, j'avais déjà testé pas mal de
trucs. Ça, c'est intéressant que tu le dises. Ouais. T'as eu plein d'échecs aussi dans toutes tes réussites.
Évidemment, j'en ai énormément.
Ça, on le sait pas, nous.
Ah oui, il y a des trucs que je raconte peu, mais parce que des fois, j'ai juste l'impression que c'est pas intéressant. C'est pas que j'ai pas envie de partager mes échecs. Au contraire, tu vois, je suis capable de dire que j'ai pas fait d'études et que c'est ok et que je me sens pas plus bête. Non, j'ai raté beaucoup de castings parce que j'étais très peu sûre de moi et peut-être que je ne correspondais pas du tout au rôle non plus. J'ai raté le casting des Miss Météo de Canal. Enfin, je l'ai raté. C'est une longue histoire, mais je suis arrivée dans les dernières finalistes, donc on était 10, on a passé des castings en plateau et c'était une expérience qui était folle pour moi parce que je débarquais de Toulouse, j'arrivais à Paris, j'étais là en Louboutin et avec une coiffure qui ressemblait à celle d'Hélène Ségara sur le plateau du Grand Journal et voilà, pour moi c'était lunaire en fait. Mais ce que je vivais comme un échec à l'époque d'avoir raté ce casting, puisqu'à la fin c'est pas moi qui ai été choisie, c'était après Doria Tillier. Et ben aujourd'hui, je suis trop contente de l'avoir vécu et je le vis en aucun cas à 0% comme un échec.
C'est une expérience.
Évidemment, et puis sur le moment, forcément, ton ego il en prend un petit coup et puis tu crois que c'est là où tu devais être, alors qu'en fait, ta place elle peut être à tellement d'autres endroits. Donc je pense que ça m'a forgé aussi un petit caractère de me dire ça c'est raté, mais viens, on teste d'autres trucs, c'est pas grave quoi. J'ai pas un ego assez surdimensionné pour pas m'en remettre.
Mais alors justement, on parle beaucoup de ça en ce moment, tu sais, de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a à voir avec l'image, avec le fait que constamment on se montre, on ne sait plus quoi faire. Toi, comment tu gères ça?
J'ai l'impression que ça a vachement évolué quand même. Tu vois, aujourd'hui, surtout avec TikTok, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus de gens qui capitalisent sur leur personnalité, qui ont moins envie de capitaliser sur le fait d'être jolie et qui le disent ouvertement, qui disent « moi j'en ai assez, je l'ai trop fait aujourd'hui, voilà j'ai ça à dire, ça m'intéresse, j'ai envie de vous le partager ».
C'était plus dur il y a 10 ans que maintenant?
C'était plus normé il y a 10 ans, où on se disait « bon, il faut être comme ci, comme ça ». Et encore que je trouve qu'en ayant pas mal de second degré d'autodérision, tu pouvais être un peu comme tu voulais, mais il fallait être bien accroché. Si les gens te disaient t'es moche ou t'es grosse, voilà, il faut être. Tu vois, les youtubeuses beauté, par exemple, se montraient vachement démaquillées. Et ça, c'était vachement. Tu te sens vulnérable aussi, tu vois. Je pense notamment à Enjoy Phoenix qui avait des problèmes d'acné. Tu te montres à des moments très vulnérables où tu montres comment tu caches quelque chose qui te fait de la peine et qui te rend triste. Donc je me dis, au final, nous, on se mouillait pas trop, tu vois. Tu pouvais ne pas être trop à ton avantage, mais c'était jamais dans des trucs super vulnérables comme ça, tu vois.
Il y avait beaucoup de misogynie, beaucoup d'appels du pied de la part d'hommes. Est-ce que toi, tu as subi déjà du harcèlement? Est-ce que tu as déjà subi des choses?
Alors moi, j'ai l'impression quand même d'avoir été bien accompagnée. Donc je sais pas si... Vraiment, je ne savais pas ce qui fait que ça s'est bien goupillé. Après, bien sûr, j'ai eu des... Par exemple, j'ai eu une maladie auto-immune, donc une maladie hormonale, et j'ai pris 20 kilos, même 22. Forcément, ton corps, il change. change, quoi. J'avais un corps qui était lambda, tu vois. Je me sentais ni grosse ni mince, en fait. Je me sentais voilà, quoi. Je faisais pas forcément de sport. Mais bon, 22 kilos en quelques mois, c'était beaucoup. Et du coup, ça s'est vu, forcément. Ça se voit sur les vidéos.
Mais surtout que toi, tu fais un métier d'image.
C'est pas pour ça que j'ai arrêté, voilà, ouais, de me filmer, par exemple. Et j'avais fait une interview chez Topito, je crois, à l'époque, parce que j'avais participé à c'était un live pour l'environnement, voilà. Donc on faisait des petites interviews pour expliquer ce qu'allait être l'émission. J'étais avec Baptiste Lorbert sur cette interview, et un mec qui laisse un commentaire, mais donc un mec, faut se mettre dans le contexte, qui est donc à l'âge de mon père. Et pour sauver la planète, mademoiselle, il faudrait commencer par manger moins.
C'est une bêtise.
Donc, ma première réaction, ça a été ok, c'est bête,
violent.
Mais deuxième réaction, je me dis c'est violent. Parce qu'avant, je me disais des fois c'est violent. Et ma deuxième réaction, c'est bête. Ouais. Donc, c'était dans l'autre sens. Et là, ça touche à mon physique pour la première fois et à.
Donc le gars ne sait pas ce qui t'arrive, quoi.
Non, il peut pas savoir. Et puis moi, je l'avais pas dit. Donc, je veux dire, déjà, je vais pas le dire dans l'interview. Parce que ça n'avait vraiment rien à voir.
Tu te présentes comme ça.
Bonjour, j'ai pris 22 kilos. Désolée. Mais... Non, mais puis sur mes réseaux sociaux, j'en avais pas parlé. Puis c'est pas quelqu'un qui me suit. Donc au final, pour la première fois de ma vie, j'ai pris ce commentaire. Je n'ai pas flouté le nom. Et je ne vous recommande pas de faire ça, d'accord. Je l'ai mis en story en disant c'est trop triste qu'aujourd'hui. On était en 2022, je crois, ou 21. C'est trop triste qu'on en soit encore là. De juger les femmes sur leur corps et le fait que gros égale manger, ouais, ça m'a choquée.
Oui, c'est idiot, ouais.
Non, mais si toutes les maladies et tous les gens qui souffraient d'obésité étaient liés que à l'alimentation, ça se saurait, en fait. Et c'est trop triste d'éduquer un mec qui a peut-être plus de 60 ans sur cette notion-là. Donc, flemme. Et forcément, tous les gens sont allés sous ce commentaire et expliquer un peu la vie, quoi. Mais comme ils sont tellement gentils et tellement mignons, ils l'ont même pas pourri, ils l'ont même pas insulté, ils lui ont juste appris la vie en quelques commentaires. Il a bloqué tout le monde et je crois qu'il a fermé son compte. Mais c'est pour dire, des fois, en fait, on est fatigué des fois. On est fatigué parce qu'on flemme d'éduquer les gens. Et à un moment donné, c'est du bon sens. Déjà, shamer quelqu'un sur son corps, flemme. Ouais. Mais en plus de se tromper et qu'il y ait une maladie derrière, je me suis dit, oh, flemme encore plus. Donc voilà, des fois, on perd un peu patience et on a envie de répondre. Mais la plupart du temps, en vrai, on laisse couler. Mais c'est un peu parfois à ton détriment de santé mentale, puisque si t'encaisses trop, peut-être qu'au bout d'un moment, ça explose, quoi.
On n'est pas fait pour, hein. Tu sais, il y a une étude qui est sortie. Non, en fait, on n'est pas fait pour recevoir autant d'amour.
Oui, c'est vrai.
Et pour recevoir autant de haine.
Mais c'est marrant que tu dis ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est un travail que j'ai envie de faire sur moi-même. Par exemple, si on me reconnaît dans la rue et qu'on me dit des trucs gentils, j'ai trop de mal à le processer. Pour moi, ça n'existe pas.
Toi, je pense que tu es animatrice. Là, je fais le pont vers ce que tu fais maintenant. Tu crées en fait soit des documentaires, soit des émissions sur principalement l'écologie ou alors des sujets de fond. Ce que tu faisais pas spécialement avant, parce qu'avant,
non, pas du
tu
tout.
Pouvais défendre des choses, le féminisme et tout ça, sous couvert de vidéos drôles.
Mais tu te mouilles pas, en fait.
Mais maintenant, on va dire que c'est marrant, tu incarnes, t'es rigolote, mais c'est pas ça que tu veux défendre.
Je pense que c'est souvent ce que je dis, mais on grandit aussi avec son contenu. C'est-à-dire que tu peux pas être la même personne aujourd'hui que quand t'as commencé en 2012. Heureusement que notre contenu reflète un peu notre personnalité d'une certaine façon, parce qu'encore, on en revient à ce truc de pas trop se livrer sur sa vie privée, etc. Moi, c'était un truc qui existait très peu dans mon environnement en 2012, même après. Ça se faisait pas de se livrer sur sa vie privée. Et moi, j'en avais pas spécialement envie. Et par contre, en grandissant et en ayant des convictions écologiques qui sont arrivées, par exemple, super tard, en fait, je viens d'une famille très modeste et, par exemple, j'avais jamais pris un vol long courrier avant mes 25 ans. Alors, je dis pas, tu vois, il y a des gens qui ne prendront jamais l'avion, donc remettons les choses dans leur contexte. Juste, à l'époque, j'avais très, très envie de voyager et j'avais jamais voyagé. YouTube et mon travail, du coup, d'auteur, m'a permis de mettre un peu d'argent de côté et de faire mon tout premier voyage en 2016-2017.
Tu partais, tu tournais toute seule ?
Ça dépendait des vidéos. Par exemple, ma toute première vidéo où je suis partie au Mexique, parce que mon rêve, c'était de voir des tortues marines, j'en avais jamais vu. Ce contenu-là, je l'ai filmé. Et à l'époque, j'étais partie avec mon copain de l'époque qui m'avait aidée. Mais il était trop mignon parce qu'il avait trop envie de m'aider, il avait trop envie de capturer ces moments-là aussi. Et il y avait de quoi en faire une vidéo. Et par la suite, comme c'était un mix entre un sketch et un voyage, ça se faisait assez peu au final. Mais moi, c'était dans ce format-là que je me sentais bien. Je me suis dit, si elle fait des vues, ça me permettra de refaire un autre peut-être. Et elle a fait des vues et ça m'a permis d'en refaire un autre.
Mais là, tu faisais comment? Enfin, je veux dire, techniquement, moi, c'est ça qui me fascine. Tu faisais ton montage toute seule?
Ah oui, par contre.
Comment t'as appris ça?
Ben, comme j'étais déjà graphiste, j'étais quand même un petit peu déjà un peu à l'aise avec le bidouillage. Donc, t'apprends, tu regardes des tutos sur YouTube. J'avais déjà la suite Adobe. Donc, quand j'ai commencé sur Premiere, bah, tu savais déjà te servir de Photoshop, etc. Donc, j'avais l'impression d'avoir quand même deux, trois outils qui me permettaient plus ou moins d'apprendre.
Mais pareil, l'écriture, le storytelling, c'est inné, ça, en fait. Et mais t'arrives à te poser, regarder un peu en arrière et dire, putain, c'est cool ce que j'ai fait, quand même.
Ouais, là, récemment, je suis trop contente. Je me dis, mais c'est la vie à qui, ça, de pouvoir poster du contenu et de rire tellement à créer des contenus. Mais des fois, je me dis, mais ça a été créé sur un bout de serviette dans un resto parce qu'il y a une vanne qui m'a fait rire. Et de voir qu'aujourd'hui, ben, c'est une vidéo qui continue de vivre, par exemple. Ben, je suis trop contente parce que tu aurais dit ça à la Léa de 14 ans. Ben, je t'aurais pas cru, en fait. Mmh. Donc, je me dis, c'est un peu magique, la vie. Il faut prendre ce qu'il y a. Mais des fois, c'est dur d'avoir du recul. Des fois, on est là, on se dit, j'ai l'impression de
stagner. Si t'en as trop, tu vas peut-être devenir chiante.
Exactement. Et puis, tu deviens Gandhi au bout d'un moment.
C'est ça. Donc, tu fais tes voyages, tu fais tes vidéos. Et là, tu te rends compte qu'il y a un petit problème.
Il y a un gros problème. Le gros problème, c'est que voyager en prenant et créer du contenu sur l'environnement en prenant autant l'avion, ça n'avait plus de sens.
Ouais.
Ça n'avait plus de sens et je m'en rendais compte. Mais ça a pris du temps, ça a quand même pris quelques vidéos. Donc je me suis dit, bah, si je voyage, il faut que j'aie vraiment quelque chose à raconter. Mm-hmm. C'était plus seulement là du fun et du tourisme.
Parce que j'imagine que tu as dû te faire tacler sur « Salut, t'es écolo, mais tu prends l'avion ».
Pas tant. Et encore une fois, c'est là où j'ai vraiment eu de la chance. Alors bien sûr, on peut avoir des discussions avec des gens et j'ai la chance d'avoir une communauté qui arrive à discuter avec moi, qui arrive à trouver les bons mots pour discuter avec moi. Mais j'ai eu de la chance de discuter avec des gens qui, effectivement, ne trouvaient pas forcément ça normal. Et même moi, à ce moment-là, je me disais, bon, je me sens pas hyper bien. Là, je pense qu'il y a un truc à jauger parce que je me sens pas hyper raccord avec mes convictions non plus. Donc c'était cool parce que du coup, c'est ma communauté qui m'a permis d'évoluer dans un autre sens, qui avait plus de sens pour moi et qui avait peut-être plus de sens pour eux. Donc évidemment qu'il y a eu un moment de latence où je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, est-ce que tu as envie de raconter des trucs depuis tes toilettes ou est-ce que tu as envie d'aller à l'entre-deux où tu peux quand même raconter des choses sans aller très très loin? Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Il y a un moment donné où j'avais plus l'impression que c'était nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour raconter quelque chose.
Il y a eu une grosse différence sur le nombre de vues, le nombre de gens qui arrivaient et tout sur tes différents réseaux. Puisqu'on voit une vidéo où tu testes des trucs alimentaires et tu fais 6 millions, et une vidéo où tu vas dénoncer quelque chose qui se passe dans un pays et tu fais 98 000 ou 100 000 vues.
Exactement.
Et ça, ça t'a pas fait peur?
Bah, ça fait toujours peur quand ton métier il est dicté par les stats. Voilà, quand souvent c'est tes stats qui te définissent. Après, très vite, je me suis rendu compte que ça ne m'empêchait pas de créer du contenu. Au début, c'est toujours un peu dur parce que tu dis, les gens aiment moins mon contenu ou etc. Mais quand tu regardes sur TikTok, des fois c'est des trucs vraiment, c'est des vidéos de 4 secondes qui vont faire des millions de vues et quelqu'un qui va dénoncer l'oppression du peuple iranien et va faire 10 vues. Donc en fait, il y a un moment, même si heureusement il y a ce genre de contenu qui perce, mais en fait c'est pas ça qui définit si c'est bien ou pas. Et heureusement que j'ai compris ça très vite.
Très honnêtement, c'est ça qui définit si tu vas gagner de la thune.
Exactement.
Derrière.
Mais comme là je m'auto-finançais, j'avais pas cette pression là. Par contre, s'il y avait des marques derrière, par exemple, j'avais fait une vidéo à Rio où c'était les écoles de langue EF, par exemple, dedans. Ben, tu leur dis, voilà, ce type de contenu là sur ma chaîne, de toute façon, ils le voient bien, peut-être va faire moins de vues, mais ça veut pas dire que le contenu sera moins bien. Donc, il faut aussi éduquer les marques avec qui on travaille. Et aujourd'hui, j'ai énormément de chance d'avoir déjà un agent qui a compris que mon credo c'était de créer des trucs tout simplement et qui dit aux marques, on n'est pas sur que de la statistique, là on va être sur vraiment de créer un truc en communion avec vous et de créer quelque chose de chouette qui va rester peut-être un peu dans le temps et qui sera regardable plus tard. Mais heureusement qu'il y a des marques qui ont compris ça. Mais effectivement, les statistiques c'est hyper important dans notre métier. Sauf que si toi tu décides que ça ne te définit pas, c'est là où tu es libre de créer n'importe quel contenu.
Oui.
Même celui qui va pas marcher, en fait.
Mais en plus, tu gagnais pas plus avant que maintenant.
Je gagnais mieux ma vie en étant beaucoup plus raccord dans mes baskets, en faisant moins de vues, mais en choisissant mieux mes partenariats et en créant d'autres choses à côté que quand je voulais faire que de la vue. bien sûr que des fois on se met la pression, bien sûr que des fois on se dit j'aimerais faire telle statistique parce que ça me permettrait de faire ça, ça, ça. Sauf que si on est consistant et qu'on est droit dans ses baskets et qu'on veut durer dans le temps, il faut accepter aussi que c'est par vague. Si tu fais ça tout le temps, si t'es... vous me voyez parce que c'est, évidemment c'est audio, mais si t'es sur la pente montante tout le temps, il y a un moment donné où tu vas redescendre. Et ouais, la descente, elle va être vertigineuse. Moi, j'ai la chance d'avoir une descente qui est un peu en vallon. Et c'est pas vraiment une descente parce que pour moi, c'est presque même une autre route. Et une autre route qui est complètement différente, qui a un dénivelé différent. Et je ne sais pas où elle va. Je sais juste qu'elle me rend beaucoup plus heureuse que dans un monde où la stat est reine, en fait. Et c'est OK. Et si les marques n'ont pas envie de travailler avec moi parce qu'ils préfèrent avoir des gros volumes de chiffres, bah c'est OK, il n'y a pas de problème. Il faut juste être d'accord avec ça.
Donc on le voit, ton virage, c'est un virage vraiment où tu veux parler d'écologie, même quand tu travailles avec n'importe quelle marque. Là, j'ai vu que tu as fait une collab avec, par exemple, Engie.
Ouais.
Et donc, tu vas faire un SAV des émissions de CO2.
Ouais.
On adore les jeux de mots, on adore.
Oui.
Et où tu vas expliquer pourquoi une éolienne est moins bruyante qu'un avion. Donc ça, c'est vraiment devenu ton credo. Comme tu le dis, c'est sincère et ça te rend heureuse. Mais du coup, t'es pas un peu énervée parfois par tout ce qui se passe au niveau écologique, par tous les influenceurs qui n'en parlent jamais?
Alors,
parce que je trouve pas énervée.
Ouais,
justement dans
c'est pas non, c'est, alors je suis pas énervée. Alors il y a des jours où je pense qu'à une période, je me suis beaucoup documentée. Donc il y avait des matins où je me levais en me disant pourquoi se lever, ça ne sert à rien, c'est la cata.
Pourquoi se battre, quoi, carrément.
Pourquoi se battre, pourquoi faire du contenu sur l'environnement alors que j'avais l'impression que j'étais pas légitime à en parler, qu'il fallait vraiment avoir le bon vocabulaire, le bon background pour en parler, avoir fait des études dans cette voie-là, etc. Et puis j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont dit mais en fait tout le monde est légitime d'en parler. J'ai pu poser plein de questions, par exemple à des scientifiques quand j'avais fait une expédition dans le Pacifique, et je me disais mais c'est fou qu'ils prennent le temps de répondre à des questions qui sont nulles. Enfin moi je partais de zéro, quoi. Et ben non, en fait ils prennent le temps de t'expliquer, de partager leur passion.
C'est pas nul, c'est les questions que tout le monde se pose, en fait.
Évidemment que c'est pas nul, mais voilà, je pense qu'il y a un truc de légitimité sur l'écologie qu'il va falloir vraiment arrêter tout de suite. Si vous êtes créateur de contenu,
en fait on est tous légitimes de sauver notre planète.
Exactement, que vous soyez créateur de contenu ou pas, et même à un repas de famille, on est absolument tous légitimes de parler d'écologie, point barre, genre même pas de discussion possible. Mais ça prend du temps d'en arriver à ce point-là, et il a fallu qu'on me le répète aussi beaucoup. Mais il y a des jours où c'est démoralisant, il y a des jours où effectivement on aimerait que tout le monde se rallie à sa cause.
Mais toi, ça t'embête pas qu'une influenceuse qui a 2, 3, 6 millions n'en parle jamais, soit à fond dans la fast fashion, mette chez elle toutes les lumières qu'il y a dans un centre commercial, par exemple, je ne cite personne.
Je peux pas m'énerver parce que ce serait pas le mot, je me dis juste que le cheminement il est long et que aussi ça dépend de l'âge que t'as. J'ai l'impression que, tu vois, peut-être que quand t'as pas un certain vécu, t'as du mal à... Tu vois, moi, ça, finalement, je trouve que c'était tard, 25 ans, pour me rendre compte que ce que je voyais dans des voyages, mes enfants le verraient peut-être pas.
Mais moi, je trouve qu'il y a les deux. Il y a les jeunes qui sont pas du tout conscients et qui s'en foutent complètement.
Oui,
ou alors qui sont un peu désespérés et qui disent, de toute façon, c'est foutu. Ouais. C'est ce que je trouve extrêmement triste.
Et ceux qui sont très militants. Et
ceux qui sont éco-anxieux à 15 ans. Et ça me fait trop de peine aussi.
Ben, c'est vrai qu'il y a pas trop de demi-mesures... Après, en fait, j'essaye d'être la plus bienveillante possible, déjà avec moi-même par rapport à l'écologie, mais aussi avec les autres. Et ça, c'est difficile parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être parfait, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des efforts s'il n'a pas le cheminement qui va avec. Si la personne change parce que les gens l'ont pointé du doigt en disant « ça, c'est pas bien », c'est voué à l'échec. Cette personne-là, au bout d'un moment, sera frustrée, ne comprendra pas pourquoi elle doit changer si ça ne vient pas d'elle. Et ça, il faut prendre du recul, et des fois, c'est difficile parce qu'on aimerait que les gens aient soi-même... qu'on fasse mieux, qu'on fasse plus vite, qu'on fasse bien, mais c'est pas possible, en fait. Et il faut accepter que des gens ne seront jamais écolos, en fait. Et ça prend du temps, et il faut se concentrer, il faut se battre ailleurs, en fait. Il faut mettre cette énergie-là dans d'autres choses. Et ceux qui taclent, ceux qui n'en font pas assez, à mon sens, c'est de la perte de temps.
Ouais. Tu trouves que l'influence, c'est un joli milieu ? Les gens sont sympas entre eux.
Ça dépend ce qu'on en fait. Après, c'est vrai que le mot influence, moi, j'ai vraiment du mal parce que...
Tu sais, par exemple, il y a des soirées où vous êtes tous invités. Enfin, de près ou de loin, vous vous connaissez un peu tous comme ça. Vous vivotez dans ce truc-là. Est-ce que tu trouves que c'est un milieu sympa ?
Après, je fais de moins en moins de soirées, etc. Je pense que ça m'a jamais trop chauffée. J'aimais bien faire des petites avant-premières, des trucs comme ça avant, mais moi, j'ai jamais été gênée par ce milieu. Je me suis... Après, j'ai un gros syndrome d'imposteur, même dans la vie. C'est-à-dire que si je rentre dans une pièce et qu'il y a des gens que je connais pas, j'aurais toujours l'impression de gêner, en fait, ou d'être gênante. Genre de faire toujours la mauvaise blague nulle qu'il faut pas. Donc, du coup, j'ai toujours l'impression de jamais avoir fité dans les milieux dans lesquels j'étais. Et ça, c'est la faute de personne. C'est entre moi et moi.
Rien à voir avec l'influence.
Rien à voir avec l'influence. Donc, du coup, j'ai jamais eu l'impression que le milieu dans lequel j'étais était moins bien qu'un autre. J'ai juste l'impression que c'est à nous de décider ce qu'on a envie d'en faire. Ouais. Donc tu peux être très copain avec plein de gens de l'influence, ou tu peux peut-être être un peu plus dans ton coin. Il y a plein de créateurs qui le disent beaucoup. Je pense notamment à Marion Caméléon qui dit souvent « Moi, c'est moins mon truc, je préfère être un peu dans mon coin. » Et c'est OK, en fait. Il faut arrêter de vouloir être une grande famille parfaite, puisqu'au final, maintenant, il y a tellement de créateurs.
Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que c'est un milieu où vous êtes exposé H24, donc quelque chose de public, et on parle beaucoup, on le disait tout à l'heure, de santé mentale, et toi, dans une vidéo, t'as parlé de dépression. Et là, on se dit, quoi, cette fille si joyeuse, ce petit soleil,
C'est vrai.
Et en fait, cette vidéo, elle est très intéressante, parce que, et ça, encore une fois, ça, c'est ta manière de traiter les choses que je trouve intéressante, c'est que tu pars d'un sujet personnel pour éclairer sur un sujet global, et là qui est le fait que tu t'es fait retirer la thyroïde.
Ouais, alors du coup, moi, c'était lié, hein. Les deux étaient complètement liés, mais avant ça, j'ai eu des années où j'ai cru que j'étais dépressive. Et c'est dur parce que j'ai cru pendant très longtemps que j'avais pas les mêmes armes que tout le monde pour me battre dans la vie. Et vraiment, le mot « se battre », c'est un mot que j'avais souvent dans ma tête en me disant « Mais pourquoi moi, je suis pas armée pour affronter tous les trucs de la vie quotidienne, en fait, les déceptions, la moindre contrariété. Je voyais bien que tout était très intériorisé, que j'étais très crispée, quoi. Déjà, ça se voyait, même physiquement, j'étais un peu tendue, quoi. Et il se trouve que...
Ce qui n'est pas ton caractère.
Non, ce qui n'est pas mon caractère de base. Et puis très peu de patience, très peu de patience, même avec ma famille. Toujours, ils ont toujours remarqué ce truc de, voilà, Léa, ça va vite... Elle peut vite changer
d'humeur
et puis voilà, faut aller dans mon sens, quoi. J'étais pas un tyran parce que je suis pas un tyran, mais j'étais très bossy, quoi. Et puis il se trouve que dans mon fort intérieur, je ne me voyais pas comme ça et j'avais pas envie d'être comme ça, surtout. Donc pendant très longtemps, je me suis traînée ce sentiment d'avoir une dissonance entre comment j'avais envie d'être et comment j'avais l'impression que les gens me voyaient. Attention, c'est compliqué.
Non, mais c'est très clair.
Mais du coup, en fait, quand j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune de la thyroïde, j'avais des symptômes très différents les uns des autres et je commençais à trembler. Un des symptômes, c'est que comme ton corps va super vite, donc en gros, j'avais la thyroïde qui était malade, donc en gros, c'est tes anticorps qui attaquent ta thyroïde et tout allait très vite dans mon corps. Donc j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais le cœur qui battait la chamade, sur une émission de jeunes. Et tout allait très vite, j'étais très tendue. Changement d'humeur très vite et ça. Donc j'étais une sorte d'hyperactivité physique et je commençais à trembler et à tel point que j'arrivais plus à écrire des textos. Sur le moment, en fait, je me dis juste, meuf, t'es tendue. En fait, à cette époque-là, je prenais un traitement antidépresseur, du coup, parce que je pensais vraiment que j'avais...
Donc ce traitement, tu l'as pris pour rien ?
Enfin, ouais, parce qu'en plus, effectivement, tu le dis, je l'ai pris pour rien, parce qu'au final,
chialais.
Ça n'a pas réglé le problème, parce que de toute façon, c'était lié à mon corps qui allait trop vite, mon cerveau, tout se bousculait, en fait.
Et la thyroïde, il faut le dire, ça régule tout, quoi.
Et du coup, moi, je me rendais pas compte que j'avais plein de symptômes qui, maintenant, ont du sens ensemble, mais à l'époque, je voyais moins bien, tu vois, j'avais perdu un peu, j'avais la vue qui avait baissé.
T'es nickel, vraiment. Tu tremblais, t'avais la vue qui avait baissé, t'étais agressive.
Une personne.
Quand tu prenais des cachets, tu dormais.
Délicieux. Exactement. En fait, je me floutais le cerveau. En fait, je prenais des médicaments, donc j'avais un traitement antidépresseur et j'avais aussi des anxiolytiques si j'avais besoin.
Nickel.
Donc j'étais confinée avec mon ex et lui, il a été au premier rang. Il a été très très patient, la patience que je n'ai pas eu moi pour moi-même. Mais un jour, sa meilleure amie vient à la maison, qui est infirmière, et en fait, elle me voit trembler. Puis je crois qu'à un moment donné, je lui dis, je me sens pas au top. Je me sens pas au top. Et elle me dit, tu sais quoi, tu devrais peut-être faire une petite prise de sang et checker. Et les résultats tombent pendant les vacances. Évidemment, je ne sais pas les interpréter. Et mon pote médecin a dit, je te donnerai, je te dirai ce que ça veut dire quand tu rentreras. Sauf qu'entre-temps, évidemment, que je suis allée googler à quoi ressemblaient mes analyses. Et en fait, je vois que je suis en hyperthyroïdie. Et donc, je rentre, je vais chez un endocrino, et là, le verdict tombe, et on me parle de maladie. Okay. Enfin, moi, à aucun moment, je ne posais le mot maladie sur ce que j'avais. C'était pas envisageable, et c'était pas ce que j'avais envie d'entendre. Mais ça m'a fait du bien, parce que du coup, je me suis dit, bah, ça répond un peu à... aux appels de phare que me fait mon corps, et du coup, on va pouvoir trouver une solution. Donc, j'étais hyper soulagée. À partir du moment où je l'ai su, j'ai arrêté d'être insupportable. En tout cas, un peu moins. Et j'ai commencé un traitement qui n'a pas marché. J'ai fait une réaction allergique, enfin allergique. En gros, j'avais plus d'anticorps. Donc, j'ai fait ça pendant une semaine. Et le médecin m'a très vite dit, on arrête tout, on enlève la thyroïde. Enfin, voilà, au moins, c'est réglé. Et moi, j'étais super soulagée de cette décision. Alors que, bon, j'avais pas trop envie de me faire enlever un organe. Mais super, super soulagée. Et ça a changé ma vie du tout au tout. À partir du moment où je suis sortie du bloc et je me suis réveillée en salle de réveil, même si c'était pas facile, déjà, j'avais... mon corps avait complètement dégonflé. En fait, je faisais tellement de rétention d'eau, j'avais du mal à bouger, j'avais du mal à tout était douloureux en fait. Et ben, je me suis réveillée, c'était déjà différent quoi. Là, je voyais mieux. Genre, je me suis dit mais comment ça est possible? C'était presque magique. Du coup, ma vie a changé et en bien. T'es heureuse aujourd'hui? Je suis très heureuse aujourd'hui et c'est hyper dur de m'entendre le dire.
D'accord.
Parce qu'au final, je trouve plus mon bonheur vers ce que je pensais qui me rendait heureuse il y a 10 ans. Je pense que je misais tout sur la notoriété, le fait d'être bankable.
Réussir
en tout point et d'être validée par tout le monde. J'avais pas de demi-mesure. Moi, il fallait que je sois validée entièrement. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut pas être validée par tout le monde, parce que c'est déjà, ça veut dire être validée par n'importe qui. Et aussi de me dire que je me valide plutôt moi-même. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire professionnellement. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire en tant qu'humain. J'ai l'impression d'avoir pu traiter des sujets qui me plaisaient vraiment, qui parfois ont plu à d'autres, donc je suis vraiment ravie. Et j'ai la chance d'être bien entourée, et ça pour moi c'est vraiment genre, ça fait partie du top de pourquoi ça me rend heureuse. J'ai l'impression d'avoir des gens autour de moi qui sont incroyables, qui sont même pas dans ce milieu des fois, ou juste qui te demandent d'expliquer ce que tu fais. Ça les fascine. Moi ça me fascine d'entendre des gens qui font rien à voir que de ce que je fais moi. Et ça m'inspire, tu vois, le fait d'avoir un podcast où c'est des gens qui me parlent de eux, en fait, tout simplement. Ça me fascine. Parce qu'on oublie, en fait, quand t'es un peu exposé, t'oublies de t'intéresser parfois aux autres. Et je pense que pendant un temps, j'ai oublié et ça m'a manqué. Et voilà, et on se nourrit les uns les autres. Et aujourd'hui, bah, quand t'as 35 ans et que tu te nourris de ton entourage, bah, ça peut donner des trucs trop cool.
Aujourd'hui, tu gagnes ta vie grâce à Instagram, beaucoup.
Plus Instagram, parce que c'est vrai que je fais moins de collabs YouTube, mais souvent, il y a quand même YouTube dans l'équation. Mais,
et quand oui, tu fais des collabs, c'est quoi? C'est toi qui négocies tes contrats avec les marques ou c'est ton agent?
Avant, c'est ce que je faisais. Je suis restée longtemps toute seule. Et puis finalement, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est une femme, qui s'appelle Florie, qui travaille avec moi. Et quand j'ai besoin, si j'ai envie de la mettre dans la boucle, parce que moi... Je suis très transparente sur le fait que négocier des trucs, c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'aime faire. En fait, j'aime bien le fait qu'il y ait un intermédiaire, parce que moi, ça me permet de me concentrer sur créer des trucs, écrire.
Et tu sais, par exemple, combien tu gagnes à peu près par mois ?
Non, c'est jamais fixe. En fait, de toute façon, quand t'es chef d'entreprise, si tu pars en vacances, bah, tu gagnes rien.
Ouais.
De toute façon. Ou alors, si tu capitalises sur tes vacances et que t'arrives à mettre des placements de produits, ce qui n'est pas mon cas.
Oui, toi, tu te fais jamais payer des restos, des vacances, des avions, des hôtels, des choses comme ça ?
Non, parce que si on me paye un avion pour aller quelque part, c'est parce que bah, je suis en contrat et que je dois aller filmer, oui. Tu vois, par exemple.
Oui, mais un hôtel et trucs comme ça, tu te le fais offrir ou jamais ?
De toute façon, même si c'est pas rémunéré en argent, tu peux avoir des compensation en nature. Par exemple, si un hôtel t'invite et qui te demande du contenu en retour, même s'il n'y a pas de lien financier, c'est quand même...
Mais c'est du travail,
c'est
quand
du,
même.
C'est du travail, parce que c'est basé sur un échange, quoi qu'il arrive. Et ça, maintenant, c'est régulé par la RPP, qui est le certificat d'influence. Et moi, je demande assez peu de choses, sauf si vraiment, ça m'est déjà arrivé en voyage, je veux aller à un endroit bien précis.
Et ça coûte une blinde.
Et ça, alors, c'est parfois même pas une question d'argent, c'est plus une question d'insolitité. Je ne sais pas comment on dit. Ouais. Mais la plupart du temps, En fait, j'aime bien être libre. Donc la plupart du temps, ben, je vais le booker. Et ce truc, si je le book, c'est que je vais essayer peut-être de créer du contenu dessus. J'ai n'importe quoi, par exemple, un hôtel où j'ai vraiment très très envie d'aller parce que tel architecte l'a fait, je vais le payer. Mm-hmm. Et par exemple, j'ai fait un TikTok sur un hôtel que j'adorais quand j'habitais à Madrid où chaque architecte a fait un étage. Et ben, je l'ai payé.
Est-ce que tu comprends l'algorithme d'Insta et de TikTok ? Parce qu'il y a des trucs où je trouve que tu t'es trop cassé la tête. Non mais c'est vrai ou pas ? Il y a des vidéos où tu sens que c'est produit de ouf et tout. Et tu vas faire un truc énorme hein, pour la plupart des gens. Hein.
Mais moins qu'un truc
au final où j'ai l'impression que tu as filmé chaque étage, tu as fait un truc à la suite.
J'ai complètement fait la paix avec ça parce qu'en fait, des fois, on ne sait pas ce qui marche. Ouais. En fait, il faut tester plein de trucs. Moi, avant, j'étais un peu sûre, je me disais « Ah, oh, bah, j'espère que ça va plaire. » Et j'ai fait tant de durée parce qu'au moins, c'est pas trop, ouais. ça va pas trop gêner dans leur feed. Mais j'ai pas envie d'être la meuf qui gêne pas. Au final, j'ai envie de faire mes trucs. Et si les gens, ils aiment, ils aiment. Et s'ils aiment pas, ils aiment pas. Mais on comprend pas tout. Et c'est OK, il faut vraiment être, être OK
faut
avec
se détendre.
Ça. Mais il faut que le contenu que t'as fait, peu importe s'il marche ou il marche pas, il te plaise. Parce que quand tu vas regarder ta vitrine, ton petit feed, ta vitrine, ah oui, alors carrément, moi j'ai... quand tu regardes ton feed, il faut que tu sois OK avec n'importe quel contenu que t'as en face de toi, peu importe qu'il ait fait 2 vues ou 500 000. Et ça, bon ben, tout le monde n'est pas comme moi et c'est OK, mais en tout cas, moi je rougis pas. J'ai pas à rougir.
Puis si tu fais 1000 likes, tu t'en fous, t'as kiffé, t'as fait ton truc. Quoi.
Si la marque, s'il y a une marque derrière, par exemple, où t'as fait 1000 vues, je dis n'importe quoi, 1000 vues, alors que d'habitude t'en fais 500 000. C'est pas ma faute à moi.
Oui.
Je suis pas vendeur de likes en fait. Donc.
mais c'est trop bien, mais maintenant je vais penser comme ça.
Mais en fait, tu vois, une fois, ça m'était arrivé, une marque, mais c'était il y a très très longtemps, que je saurais même plus te dire quelle marque c'est, tellement je ne sais plus, qui m'avait demandé si jamais on fait une collaboration, combien vous pensez que vous pouvez vendre de tels produits. Je sais même plus ce que c'était. Je crois que c'était un rouge à lèvres. Et j'ai dit, mais je suis pas vendeuse en fait. Je suis pas vendeuse chez Sephora.
Toi, tu vas. Non, ce que tu peux leur dire, c'est moi, je vais me donner pour que ce soit bien, que ce soit.
Bah, truc, des fois, t'as flemme d'expliquer en fait. Ouais. C'est que toi, t'es pas là pour vendre tant de produits. Mm-hmm. T'es là pour créer une identité et une plus-value à une marque. Et de faire une collaboration et de créer quelque chose qui va avoir du sens pour la marque et pour toi parce que ça te ressemble et que ça ressemble à la marque. Bah, à quel moment t'es responsable du nombre d'achats du produit ?
Ouais.
Non, en fait. Je comprends pas qu'on fonctionne comme ça. Et c'est comme les créateurs de contenu qui disent... Attention, là, je pousse du poing
sur la table.
Qui disent, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur mes réseaux cette année ? Ça m'agace. Parce que je me dis, à quel moment on en est arrivé là ? À quel moment tu as décidé... Alors oui, tu as envie de faire plaisir à ta communauté, mais à quel moment c'est eux qui décident ce que tu dois créer comme contenu ? Ça va dépendre de tellement de choses. Donc, il faut rester fidèle au contenu qu'on a envie de créer. Et c'est pas en faisant des trends, en faisant que ça. En tout cas, c'est cool de faire des trends. Moi, des fois, ça me fait trop rire et j'adore en regarder. Mais si tu fais que ça et que tu capitalises que sur des trends, c'est voué à bientôt être un peu compliqué. Parce que du coup, tu es tributaire de quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Mmh. Je dis pas qu'il y a qu'une façon de bien faire, pas du tout. Il y a 1000 façons d'exercer ce métier. C'est juste pas celle-là que j'ai choisie.
Mais il faut bosser. C'est quoi ton plus grand rêve professionnel aujourd'hui ?
Je pense que j'en ai accompli un, qui était de faire un documentaire. C'était vraiment mon rêve secret, je pense. Je me l'avouais pas et tant que je l'avais pas fait, je pense que maintenant j'arrive à dire c'était mon rêve, mais je m'en ai pas compte.
Tu m'as un peu volé mon rêve.
C'est vrai ?
Ah non, mais je rêve d'aller à Tchernobyl et en plus, j'ai une grosse sensibilité aux animaux. Parce qu'il faut le dire, c'est un documentaire. Alors, tu te sers aussi de ça pour parler de ce sujet-là de Tchernobyl. Ouais. Tu parles des chiens qui vivent encore.
Ouais, c'est la porte d'entrée vers un sujet qui est beaucoup plus vaste, mais c'est une porte d'entrée qui est accessible. Et c'était juste le moyen de parler d'un sujet qui était plus grand, qui est comment on se reconstruit après une catastrophe. Mais c'est très gay ce que je dis. mais en tout cas,
ce podcast est jeune et gay.
Oh là là, il est à brûle pour point. Mais en tout cas, les chiens, ils donnent un côté un peu insouciant et un peu naïf à tout ce documentaire qui ne l'est pas du tout. Et on s'est dit que c'était un bon contraste et que ça pouvait raconter une bonne histoire à travers leur cheminement.
Et ça, j'imagine que t'en es fière de ouf.
On n'est jamais fière à 100% de ce qu'on fait, mais je suis contente de l'avoir fait.
Il y a quelqu'un avec qui tu rêves de bosser ? Et si je te dis maintenant, tu peux bosser avec une personne de ouf. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas français, hein.
Je crois que je m'émerveille assez facilement. Alors, j'ai la particularité, j'ai jamais été fan de quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Même
oui, t'as jamais pleuré pour un artiste ou...
Bah, en vrai, non. Et je ne sais pas trop ce que ça fait. Et par contre, je n'ai pas du tout de jugement sur le fait d'être fan. Et c'est pour ça que ça rejoint le truc que je te dis. Je ne comprends pas des gens qui peuvent me dire « je suis fan de toi ou de ton contenu ». Parce que du coup, c'est une notion que j'ai du mal à mettre en image dans ma tête. En fait, je suis trop contente d'être avec des gens globalement.
D'accord, ok. De voir du monde.
On dirait que je suis un petit caniche trop content de la vie.
Mais non.
Non, mais...
T'as choisi le chien vraiment des jeunes.
Le chien des jeunes est vraiment... Mais en vrai, c'est très mignon, les caniches. Un petit ouais. Cocker.
Moi, ah, moi j'adore. Et surtout les caniches, non. C'est incroyable.
Ah oui. Mais en vrai, je pense que je m'émerveille assez facilement parce que je viens d'une petite ville à côté de Toulouse et que tu pourrais me mettre n'importe quelle personne un peu cool. Il ouais. Faut qu'elle soit cool quand même.
Oui.
Après, si vraiment je devais choisir, je suis tellement fan des comédies américaines et je suis très fan de... Fan. Dans le sens, je vais pas pleurer si je le vois, mais...
Mais parce que le contenu te plaît énormément.
Ouais. J'aime beaucoup Will Ferrell, j'aime beaucoup voilà, toutes les comédies des années 90. J'aime l'humour un peu potache. Et quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les films de Mel Brooks, donc c'est l'humour ultra potache. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce type d'humour. Donc voilà. Bah, je pourrais pas bosser avec Mel Brooks parce qu'il a vraiment presque 100 ans, je pense. Mais,
et alors il n'y a pas de limite.
Ce serait génial.
Vous partageriez toutes ces petites expressions.
Bah voilà, bah, Mel Brooks. Et Will Ferrell dans le même film.
Voilà. T'as peur pour l'avenir ?
Alors, c'est une très bonne question parce que, en fait, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça s'arrête, ce type de métier. Et du coup, je pense qu'il faut complètement, dans sa tête, amorcer plein d'éventualités, mais sans pour autant penser au pire. Parce que si tu penses au pire, forcément, ça va arriver. Et puis,
les lois d'attraction, quoi. Tu attires...
Ouais, et puis, à un moment donné, ta carrière, elle ne se résume pas à ce qu'on
fait. Mais tu te vois à 50 ans sur les réseaux sociaux ?
À vrai dire, je n'en sais rien, parce que comme le métier est tellement nouveau... il se peut qu'on se retrouve avec des youtubeurs d'ici quelques années qui ont 50 ans. On est, tu vois, enfin là, nos youtubeurs, ils ont, bah, je pense que je fais partie de la tranche d'âge un peu classique, 35, tu vois, les premiers. Mais il y a des youtubeurs maintenant qui sont plus âgés, tu vois, qui ont, bah, je ne veux même pas dire d'âge, parce qu'il y en a de tous les âges, en fait.
Bah oui, moi, j'ai vu des vidéos YouTube qui cartonnaient de mecs qui chassent des frelons, par exemple. Et non, mais il y a un mec, et... bon, j'adore ces vidéos. Parce que ça me fait de la peine pour les frelons, mais je me rends compte à quel point il y a des nids de frelons.
Et puis c'est nécessaire. Moi, je regarde une meuf qui déloge des abeilles aussi sur TikTok.
C'est passionnant.
Elle est géniale.
Ils sont géniaux. Et en fait, ce mec-là, il a, je sais pas, il doit avoir 60 ans. Et il fait des millions de vues.
Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont démocratisé le stéréotype du youtubeur ou de l'instagrammeur ou du tiktoker. C'est OK. Genre, moi, je regarde des vidéos sur TikTok de mecs qui font du fromage. Ouais. Et ils ont genre 65 ans. Ou des gars qui goûtent des cafés. En fait, ce qui est trop bien, c'est que ça a complètement cassé, ça a rebattu les cartes et qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri à se retrouver avec des gens qui sont installés dans ce métier-là depuis super longtemps et j'ai hâte de voir parce que vraiment c'est trop bien et puis qu'est-ce que tu vas partager. Après, tu vois, un Cyprien, on n'est pas à l'abri qu'à 50 ans, il continue de nous proposer des courts-métrages.
Deux questions que je pose à la fin du podcast à tout le monde, c'est donner aux auditeurs qui nous écoutent les trois conseils de la formation de Léa Camilleri pour se lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe où, mais pour lancer son truc pour tous les gens qui ont ce foutu syndrome de l'imposteur et qui sont là genre en sommeil chez eux avec tout ce talent. Qu'est-ce que tu leur dis de faire ?
Alors, le maître mot, c'est vraiment savoir ce que tu as envie de partager. Et c'est OK de pas... On en revient au talent aussi. C'est OK de dire, ben, moi, j'ai pas un talent particulier, mais par contre, j'ai envie de raconter plein de choses. J'ai envie de partager ça, j'ai envie de partager ma passion ou mes convictions. Il faut arrêter de croire qu'il faut avoir une espèce de plus-value pour être légitime à ouvrir des réseaux sociaux. Par contre, on peut pas partager quelque chose si on n'a pas la passion de vouloir partager quelque chose ou d'ouvrir une discussion, etc. Donc il faut être passionné, il faut être authentique parce qu'il ne faut pas se travestir dans son contenu parce que ça ne durera pas dans le temps. Il faut être aligné avec ce qu'on crée et ce qu'on a envie de dire. Après, il n'y a pas une vraie façon de s'en sortir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la niche, c'est toujours bien parce que ça permet de se concentrer sur un sujet qu'on maîtrise et de voilà, d'expanser un petit peu son, sa bulle. Mais par contre, aujourd'hui, on voit émerger des talents qui parfois n'ont pas de niche, en fait, et qui, peut-être, c'est juste une personnalité qui est un peu flamboyante, tu vois. Flamboyant, oh.
Moi,
on va faire la
mots.
Compilation des mots de désuet. Non, mais tu vois, ce genre de personnalité où, où t'as envie de discuter, t'as envie d'échanger, tu te dis que cette personne-là est, est un peu hors du commun. Et voilà, il y a des gens qui, sur TikTok ou sur YouTube, percent parce qu'ils ont des personnalités atypiques. Et c'est génial que ça arrive. C'est génial que ça, ça puisse émerger parce qu'avant, ça n'existait pas. Donc, il faut être passionné, il faut être authentique. Et puis surtout, il faut être bienveillant avec soi-même. Il y a un moment donné où si tu te juges trop, si tu penses que ce que tu fais c'est nul, etc., il ne faut pas que ce métier devienne tyrannique et néfaste en fait. Il faut que ce métier, tu le fasses parce que tu en as envie et parce qu'au final ça te fait du bien, pas parce que ça te fait du mal. Si la notoriété, tout ça, c'est pas pour toi, c'est pas ton truc, et ben il faut peut-être s'orienter vers autre chose. Mais par contre, la notoriété ou peu importe l'exposition, il y a plein de façons de la gérer.
Est-ce que tu peux nous conseiller une personne à suivre sur les réseaux sociaux ?
Ah, oh, il y en a tellement.
Tu dois en choisir qu'une.
Ah, la fille des abeilles, là, c'était pas mal. Mais non, mais il y a mieux. Non, je suis un chien qui me rend très heureuse, qui s'appelle Tucker sur Instagram et sur TikTok.
Alors maintenant, toi, pour te retrouver, donc, tes réseaux sociaux, Aléa Camilleri.
Oui, j'ai pas de surnom.
Non, oui, non. Mais c'est pas plus mal. C'est plus pratique pour moi, par exemple, pour te trouver à chaque fois. C'est pratique. Donc, Instagram, YouTube, TikTok, on va suivre ton TikTok et tu vas faire des TikTok.
Mais voilà, mais j'ai pas 200 000 abonnés. Putain, je danse si mal, si vous saviez.
Mais justement.
Mais ok, j'en ferai une.
Mais aussi, tu as un podcast qui s'appelle
The Raccoon Club.
Et ça, on le retrouve sur toutes les plateformes.
Ouais.
Ok, voilà. Bon, mais merci mille fois, Léa. Déjà, j'espère que tu vas continuer à faire des réseaux sociaux parce que nous, on veut te voir.
Ah bah après cette interview là,
tu repars reboosté.
Ah ouais.
Ok, très bien.
Ça fait du bien.
Merci beaucoup,
merci
Léa.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté Followers, le podcast énergie qui décrypte le milieu de l'influence et les réseaux sociaux en donnant la parole à vos créateurs et créatrices de contenu préférés. Il est animé par moi, Pauline Borgia, et c'est un plaisir. Mais ce podcast, c'est un beau travail d'équipe. À la réalisation, Cédric Ledoré, à la rédaction en chef, Maud Ventura, à la production, Lise Lovati et Nina Minotto, une équipe joyeusement dirigée par Sarah Conan. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Diffusez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je veux voir vos posts, vos stories et vos réels. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, par exemple. On adore lire vos retours. Merci d'être là. À très vite. Bisous.